On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Mon nom, c'est Courgette.
J'ai un très bon souvenir de fleurs de courgette. Ma mère avec ma tante qui nous faisait cette spécialité farcie, frite, avec des pâtes, le risotto avec les fleurs de courgette.
Elle est le symbole de l'abondance et de la fécondité.
J'ai pris une courgette monstrueuse. J'ai évidé ma courgette. Et dans cette courgette, j'ai mis les merveilleuses choses que j'avais, c'est-à-dire des champignons, des truffes, des tomates, tout ça passé au beurre avant. On l'a poussé au four et on l'a servi. Et ces femmes ont été ravies.
C'est l'histoire d'un fruit, voire d'une fleur, qu'on cuisine comme un légume à les comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, pour notre premier dimanche de l'été, menu tout courgette. D'où vient cette plante potagère? Pourquoi sa consommation est-elle si récente en France? À quoi ressemble sa vie sexuelle débridée? Ce sont des questions que l'on va poser à notre pote du potager, Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'expert légumes de la bande dont on va déguster, auteur de nombreux livres sur le sujet, formateur en permaculture. Vous nous avez apporté des énergumènes assez incroyables. Et ce sont des courgettes.
Oui, si on s'en tient à l'acceptation du mot, courgette, petite courge. Donc c'est pas uniquement ce qu'on a l'habitude de voir.
C'est ce qu'on va voir avec vous. Vous allez nous élargir nos idées reçues. Pour passer la courgette à la casserole, même si on va voir qu'elle est aussi très bonne, crue et au four, Zora Levacher, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé Sonat à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition?
Alors, Sonat, c'est un restaurant végétarien qui existe depuis 3 ans maintenant.
Oui.
Et qui a ouvert une deuxième enseigne juste l'année dernière. Et voilà, qui plaît beaucoup, qui a beaucoup
qui
de succès.
Qui plaît beaucoup et qui plaît beaucoup à toute l'équipe dont on va déguster. On en a parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Un restaurant cantine du midi, 100% bio, totalement végétal. Et c'est délicieux, il y a des jeux de textures et de goût tout à fait étonnants et de couleurs aussi évidemment. Une cuisine totalement vitaminée. Alors vous avez deux adresses, l'une rue Bourdaloue dans le 9e arrondissement à l'ombre de l'église Notre-Dame de Lorette et une deuxième adresse rue Laborde dans le 8e juste derrière la gare Saint-Lazare. Dans les fauteuils des chroniqueurs Arnaud Daguin et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Hello hello.
Bonjour les courgettes.
Bonjour. Alors Arnaud, coup de lame.
Un coup de baguette magique aujourd'hui, vous allez voir.
Oui, moi je sais déjà pourquoi. Antoine.
Moi j'ai envie de boire, j'ai tellement soif que j'ai envie d'amboise aussi.
Vous avez envie d'amboise et ça va plaire à votre voisin Xavier Mathias car il est de chez Digny, hein. Indre-et-Loire, vous n'êtes pas très loin d'Amboise.
Ouais, on est juste à côté.
Dans le Val-de-Loire. Pour réagir en direct dans cette émission autour de la courgette, deux solutions, l'appli de France Inter ou un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Toutes nos infos pratiques, les recettes et le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant notre menu végétal autour de la courgette, je vous propose une pasta très carnivore. Si je vous dis tortellini, vous me répondez évidemment petit ravioli, farci à la viande,
origami.
En forme de bague, absolument, ouais, il y a du pliage. On en déguste au nord de l'Italie, al brodo, au bouillon, ou bien dans une sauce au parmesan. J'ai tenté de percer les secrets de ces tortellini dans un pastificio, une petite fabrique de pâtes située dans le centre historique de Bologne. C'est la capitale d'Émilie-Romagne et c'est aussi la capitale des tortellini. Un atelier que m'a fait découvrir Alessandra Pierini, notre experte italienne. Et c'est un atelier dont on dit qu'il fabrique les meilleurs tortellini d'Italie, tout simplement. Ça s'appelle les sfogline. Sfogline en Italie, ça veut dire les femmes qui mettent au sens propre la main à la pâte, c'est-à-dire qui font la sfoglia, les feuilles de pâte fraîche. Attention, démonstration de pliage des tortellini avec la patronne Daniela Venturi et sa sœur Monica. Vous allez voir, comme disait Daguin, à ce niveau, c'est un véritable origami culinaire.
C'est la reine des tortelloni rose. Elle fait beaucoup de tortelloni tous les jours.
Donc, ricotta de vache.
Oui, persil. Parmigiano reggiano, 36 mois, c'est très important. Et du sel et de la noix muscate.
Et ensuite, pliage.
les pliages, on fait un triangle, il faut les fermer très bien, vous voyez, et après on va les tourner autour des doigts. Et vous voyez, c'est comme un petit cœur, parce qu'à Bologne, il n'y a rien avec des angles, mais c'est tout arrondi. Comme un cœur.
On arrondit les angles à Bologne.
Oui, oui, c'est ça. Vous savez, toutes les femmes à Bologne, il y a 30 ans, faisaient les pâtes chez soi. C'était normal. Si une femme ne faisait pas les pâtes à la maison, elle ne pouvait pas trouver les fiancés, le mari. C'était impossible, vraiment. Et
juste à côté de Rose, on peut y aller. Là, alors, c'est atelier Tortellini.
Valeria.
Bonjour.
Buongiorno.
Donc, la farce.
Alors, ah oui, la farce, c'est très différente. Elle est cuite, il y a de la viande du porc, et puis il y a du jambon, de la mortadella, du parmigiano reggiano 36 mois, du sel et de la noix muscate.
Et il y a un geste d'une dextérité absolument incroyable. Oui, il y a une rapidité, on a l'impression que c'est en accéléré.
Oui, c'est ça, elle est très très vite, vraiment.
Valeria pour les tortellini.
Oui, Valeria pour les tortellini, Rose pour les tortelloni. Moi, j'ai fait surtout des lasagnes, des pâtes au four. Et ma sœur prépare les tagliatelle et les gâteaux.
Et oui, la soupe en parielle, strozzapreti et gramigna.
Excusez-moi. Ouais.
Comment vous vous appelez?
Monica.
C'est ma sœur. Hein?
Monica. Et vous aussi, vous parlez français?
Non.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des gnocchi?
Avec farine et patates.
Farine et patates, et c'est tout?
C'est tout.
Et ces gnocchi, ils vont être cuits dans l'eau, chaude?
Dans l'eau, comme spaghetti.
Grazie.
Alors, surtout la sfoglia, c'est vraiment très élastique. Et ça, parce qu'on a des farines et des œufs spéciales. Alors, il faut faire en avance, on fait des carrés avec la speronella, on l'appelle, le petit
rouleau,
oui. Après, on met la farce et puis le carré devient un triangle. Il faut les tourner autour des doigts. Et
l'index
pour, oui, on les pince avec la main droite et puis on les tourne autour du doigt de la main gauche.
C'est ça.
Et vous avez les lombriers de Vénus.
C'est ça, le nombril
L'origine
de Vénus.
L'origine des tortellini, c'est 1325. Voilà, il est très, très âgé et c'est vraiment les rois des spécialités de Bologne. Vraiment, on les connaît dans le monde entier. Mais j'ai une rêve. Gérard Depardieu.
Gérard, si tu nous écoutes.
Ah oui.
Vous avez un message à passer à Gérard Depardieu?
Je vous en prie, on vous attend chez nous et on aurait vraiment la possibilité de vous faire dégoûter. Excusez-moi, c'est les mots. Je suis émue. Et les tortellini, les tortellons, on y tagliatelle. C'est que vous voulez.
Ça, c'est un message.
Ah oui.
Peut-être qu'un jour, qui sait, notre Gérard National ira acheter des tortellini ou des tortelloni chez les Sfogliine à Bologna, au nord de l'Italie. En tout cas, si vous voulez les meilleurs tortellini du monde, n'hésitez pas à y passer. En plus, c'est un format de pâte qui voyage très bien. Donc, différence tortellini, tortelloni, les amis, vous avez bien pigé?
On sent bien que c'est une question de calibre.
Voilà, c'est une question de calibre.
La taille a de l'importance.
Bravo Daguin. Tortelloni, c'est évidemment le grand format et c'est un pliage en forme de nombril de Vénus. Pendant ce reportage, vous nous disiez, Xavier Mathias, que nombril de Vénus, ça fait référence à une plante également.
Oui, c'est ça, c'est délicieux, ça pousse, c'est une plante spontanée qu'on a dans les murs.
Oui.
Et ceux qui ont la chance d'en avoir, je vous conseille d'y goûter, c'est très très bon, ça vaut largement le pourpied.
Le nombril de Vénus, ouais. Et on est bien d'accord, moi j'aime beaucoup ça.
C'est comme un
ficori,
aussi,
ou c'est quoi?
Ah ouais, j'adore.
Plus c'est nombril de Vénus.
Ah oui, d'accord. Carrément. Oui.
Vous aimez ça. Bon, derrière la console, notre réalisatrice de l'été, Camille Blanès, qu'on est ravis de retrouver, accompagnée à la technique de Tiffany Battistel, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission et l'animation de notre page internet. Dans un instant, la courgette est à la fête pour notre premier dimanche de l'été. On la croque par tous les bouts. Et tous les goûts. Après Help Me Stranger, c'est le titre phare du troisième album de The Raconteurs. Bel été sur France Inter. If you call me, I'll come running. You can call me.
essential that I feel you. It's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time?
Il est temps de passer aux questions du jour. Où la courgette va-t-elle pousser? Bravo, dans un potager! Plus dur, de quelle famille la courgette fait-elle partie? De la famille des cucurbitacées. Oui! Et enfin, la courgette nous vient de quel pays? Du Mexique, si!
On va déguster, semer à l'heure d'été.
Allez, à table les enfants!
La courgette vient du Mexique, là il fait un peu la tête Xavier Mathias.
Bah oui, dans le sens où courgette, alors désolé pour la palissade, hein, mais courgette c'est petite courge. Donc ça peut venir bon d'Amérique centrale et effectivement et du sud,
de la dire que c'est mexicain.
Oui, mais de la dire que c'est mexicain, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux.
C'est un petit raccourci. On va en parler avec vous et on va explorer justement les origines et la vie botanique de la courgette. Évidemment, on va pas se priver de vos connaissances et de votre savoir, cher Xavier. La courgette passe donc à table en ce dimanche et au cas où personne ne s'en serait aperçu, il fait très chaud depuis quelques jours sur toute la France, les températures ont battu des records, parfois ça dépasse allègrement les 40 degrés dans certaines régions. Question toute bête, très liée à cette situation climatique, Xavier Mathias, est-ce que comme les humains, le potager en général et la courgette en particulier souffre de la chaleur?
Alors, courgette, finalement, c'est celle qui passerait plutôt le mieux. Néanmoins, les plantes souffrent, comme nous. Et quand il y a des fortes chaleurs, elles ferment leurs stomates. C'est-à-dire qu'elles ne respirent quasiment plus. Elles se mettent en repos, en fait. Elles s'économisent.
Leurs stomates, c'est un peu comme leur porc.
On peut les associer. Et en fait, il n'y a plus de photosynthèse. Il n'y a plus de croissance. Donc là, on a des plantes qui sont en repos complet, qui attendent que ça s'améliore un peu pour pouvoir repartir de plus belle, j'espère.
Donc dans votre potager à Chédigny dans le Val-de-Loire où il fait très chaud, on peut dire que vos plantes potagères tirent la tronche?
Alors, il y a un coup de frein. On s'aperçoit qu'il n'y a réellement pas de croissance, quoi. Ça ne se développe pas.
Effectivement.
Mais est-ce qu'il y en a quelques-unes qui aiment ça? Parce que, ne rien te cacher, mon cher Xavier, sur mon balcon, j'ai une courge qui s'épanouit quand il fait très chaud. Mais quand je dis elle s'épanouit, pour peu que je lui mette de l'eau, c'est incroyable, quoi.
Voilà. Alors, courgette, ça s'en sort pas mal. Le maïs est tout à fait impressionnant. Après, les tomates, elles sont au ralenti.
J'ai envie de me tourner vers Antoine Gerbel, notre expert de la vigne du jour. Comment ça se passe dans les vignes, vous qui êtes tout le temps en train de voyager dans les vignobles de France? Chaleur et raisin, est-ce que ça fait bon ménage?
Je vais rebondir sur votre présentation. Comme les humains, je répondrai, parce que voilà, la vigne est une plante méditerranéenne, donc elle est habituée quand même à subir ces gros coups de chaleur. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a entendu sur les ondes là ces dernières 24 heures des vignerons du sud se plaindre en disant qu'on a des raisins complètement desséchés. Alors effectivement, mais
un peu brûlé en fait.
Brûlé. En gros, au nord de Lyon, tout se passe très bien. C'est la fleur en ce moment ce qui est en train de se terminé sur la vigne, donc cet espace de chaleur est plutôt bonne, c'est un bon espace pour la vigne parce que elle élimine toute l'humidité et éloigne toutes les maladies à venir.
Donc pas de champignons,
on va dire que dans le nord,
pas de mildiou,
exactement, c'est très bon en ce moment pour la vigne. Dans le sud, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement il y a des gros coups de chaleur, là, il y a 47 hein, dans l'Hérault, et il y a notamment le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault qui s'est plaint. Mais je faut toujours décoder un peu ce discours, déjà parce que je pense que dans le sud il y a un problème de taille de vigne. On coupe trop la vigne, on laisse pas assez la vigne se protéger, on enlève des feuilles. Vous imaginez en ce moment, on est pamprant, tout ça. Donc, faut peut-être se poser des questions. Puis, un dernier chose, c'est qu'en ce moment, il y a des vignerons un peu, on va dire, industriels, entre guillemets, qui demandent fortement l'irrigation de la vigne. Et là, ça voilà. leur permet de faire passer leur message. Vous regardez notre pauvre vigne, elle souffre, elle souffre. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'eau et elle ira mieux. Donc, faisons attention sur ces messages un peu catastrophiques.
Arnaud, juste un mot sur la vigne. Aujourd'hui, ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux qui ont des sols dégradés, c'est-à-dire ceux qui ont laissé l'érosion arriver, qui sont avec des sols qui sont pas vivants, qui retiennent pas l'eau et qui rafraîchissent pas les rangs. Point. Donc quand on est sur du caillou, effectivement, moi j'ai entendu dire pendant des années, il faut faire souffrir la vigne, mais tu vas voir, elle va crever. Quand on a fini de souffrir, t'auras plus de vigne.
En l'occurrence, on n'est pas encore en sécheresse, là on est en brûlure. Donc là, c'est pas encore le sol qui parle.
Bah, c'est les cailloux qui renvoient quand même.
Et si on revenait au potager pour évoquer la courgette, après cette petite parenthèse climatique qui est toutefois importante, parce qu'il est vrai que quand on fait ses courses, on se pose forcément la question des incidences de ces fortes chaleurs sur eh bien, les produits de nos potagers. Zora, c'est la fête de la courgette en ce moment chez Sonat.
Bah oui, on la propose dans une recette, donc un peu ce que j'ai proposé aujourd'hui.
Oui.
Donc
en
tagliatelle de courgettes.
Alors là, on commence carrément dans le cru et c'est une très bonne idée parce qu'on a envie de manger froid justement pendant que Xavier justement est en train de la manger cette tagliatelle. Disons-le tout net, c'est vraiment très très bon. Très franchement.
Merci.
Comment vous vous y prenez? C'est des tagliatelles. Alors on aperçoit deux couleurs, ce qui nous permet d'évoquer évidemment la diversité de la courgette.
Voilà, donc là j'ai choisi de la courgette jaune et de la courgette verte. Oui. On peut en rajouter d'autres aussi.
C'est quelle variété, la courgette jaune?
Du coup, c'est la Gold Rush. Hein,
oui, c'est ça.
Bien ça.
Ouais.
Du coup, la Black Beauty.
Oui, exactement, bravo.
Et ce qui est bien avec la courgette, c'est qu'en fait, elle a un goût très délicat et un petit peu ce qui va nous permettre de la marier avec pas mal de d'autres ingrédients.
Oui.
Donc là, j'ai choisi de la marier avec des pickles de citron pour essayer de relever un petit peu tout ça.
Comment vous y prenez pour les pickles de citron?
Alors, les pickles de citron, donc en fait, je vais faire une petite marinade avec du vinaigre, du sucre. Je vais rajouter les épices que je veux, avec un petit peu de piment, là, en l'occurrence.
Oui.
Je mets les citrons dans un bocal. Je rajoute tout ce mélange bien bouillant dans le bocal. Je ferme bien et je peux le garder.
Fabuleux. Voilà. C'est un peu le principe des citrons confits qu'on fait au nord de l'Afrique?
Alors, le citron confit, moi, je le fais il y a différentes façons de le faire. On peut le faire avec du gros sel, on peut le faire différemment. Donc là, on peut remplacer les pickles de citron par du citron confit.
Oui.
Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai taillé les courgettes à la mandoline avec un petit peu d'oignon rouge. Alors, on peut se servir d'un économe, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai fait une petite sauce à base de gingembre, citron et huile d'olive. Donc, on mélange tout ça, c'est très simple à faire. On rajoute un petit peu de pignon de pin torréfié et le tour est joué.
Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis?
Alors, moi, déjà, ce que j'aime beaucoup,
Xavier Mathias.
C'est cru, déjà.
Ouais.
Et on cuit trop. En général, je trouve les légumes. Et puis, surtout, c'est pas épluché. Et on épluche trop, à mon avis, les légumes. Donc là, c'est vraiment génial.
Alors, on garde le légume dans son intégrité. Il n'y a rien qui se perd.
On le garde en entier, non.
Et vous me disiez, en préparant cette émission, Xavier Mathias, le meilleur ami de la courgette en cuisine sur le plan de travail, c'est la...
C'est la mandoline, on reste en Italie, il n'y a pas.
C'est ça. Et là, effectivement, on a la courgette dans son intégrité, avec sa tendreté, merveilleusement assaisonnée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle peut s'assouplir légèrement, la courgette, avec l'assaisonnement, justement, et un peu d'acidité, voire perdre un peu d'eau.
Ouais, c'est ça.
Oui, Zora?
Alors, non, ça peut être bien. Par exemple, dans ce cas, pour cette recette, on peut la faire mariner la veille, et la réassaisonner le lendemain. Mais sinon, effectivement, ça lâche beaucoup d'eau quand on rajoute un petit peu de sel et du vinaigre.
Car la mauvaise nouvelle, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, on peut dire que c'est en tout cas un légume très hydratant. J'ai été halluciné d'apprendre la teneur en eau de cette fameuse courgette, Xavier.
Oui, c'est autour de 95%. Donc, grosso modo, une courgette, c'est l'eau. Alors, c'est pour ça que c'est très, très bien de la manger en été. Parce qu'en été, on en a vraiment besoin. Donc, l'intérêt des légumes de saison, quand même. C'est aussi le non-intérêt, à mon avis, de la congeler, de la pasteuriser, etc. On n'a pas besoin de toute cette eau en hiver. Et donc, elle est vraiment bienvenue pour ça. Et toute cette eau, ça explique aussi sa rapidité de croissance absolument stupéfiante.
Et oui, c'est vraiment, on la verrait presque
pousser à l'œil nu, enfin en taille réelle, quoi.
Ah, mais en écoutant bien, on l'entend pousser.
Oui, on l'entend pousser carrément. Alors, évidemment, c'est peu de calories, comme le rappelle notre réalisatrice Camille Blanès au casque, mais c'est aussi des fibres, des vitamines, des minéraux. Il y a du magnésium, du calcium, de la vitamine C, du phosphore, du potassium. Enfin bon, la courgette reste évidemment une très bonne alliée de notre alimentation, notamment pendant l'été.
Et il faut rappeler que tout ça, ça se situe dans les 3 premiers millimètres en dessous de la peau, hein. Donc, effectivement, comme le disait Xavier, ne pas peler la courgette, c'est
absolument
très important.
Et garder la peau et la consommer bio. Mais enfin, ça, maintenant, on commence à le savoir. Les tagliatelles de courgette aux pickles de citron et pignon de pin, c'est merveilleux. Avec un petit filet d'huile d'olive, une petite touche de gingembre. La recette est disponible sur franceinter.fr à la page On va déguster. Arnaud,
on a du courrier.
Oui.
Lison, qui apparemment a 9 ans. Et qui nous demande si on aurait une recette facile avec la courgette pour une petite fille de 9 ans, elle donc, qui n'aime pas la courgette. Alors moi j'en ai une, si elle veut bien. Il faut qu'elle s'équipe d'une râpe à fromage à gros trous, hein, celle avec laquelle on fait le fromage râpé. Mm-hmm. Elle va râper ses courgettes sans les peler, évidemment, avec ça. Et puis, dans une poêle, elle va mettre un tout petit peu de beurre, elle va faire sauter ça gentiment avec une pincée de sucre, un trait de vinaigre et un peu de sel, comme ça, là. Et au dernier moment, elle va y mettre ce qu'elle aime le plus. Si c'est du jambon, c'est du jambon. Si c'est... Voilà. Et elle va mettre ça dans cette poêle, elle va le faire retourner. Elle va jamais reconnaître la courgette, mais par contre, elle va en manger.
Bravo, c'est génial. Et j'en profite pour vous glisser dans les oreilles un super truc de cuisine de Camille Blanès, qui utilise la même râpe à fromage que vous. Elle râpe des courgettes, donc râpées assez fines. Elle les fait, d'abord elle les fait légèrement dégorger, elle les râpe ensuite, elle mélange avec du quinoa qui est déjà cuit, un œuf, du parmesan, de la chapelure, un peu de sel, de poivre, de l'origan ou du persil frais, et elle obtient des galettes qu'elle fait frire ensuite à l'huile d'olive.
Oui,
elle me garantit que c'est délicieux. Avec les protéines du quinoa,
c'est pour
voilà.
C'est pour ça qu'elle les fait dégorger. J'avais pas compris le but, mais effectivement, vaut mieux le vélo.
Et en voilà une très belle idée de recette. Dans un instant, on va évoquer, évidemment, je le disais, le côté botanique de la courgette, mais tout de suite, c'est le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Eh bien, en ces jours caniculaires, loin des frimas d'Halloween et de ces courges grimaçantes, je voudrais vous parler de mes citrouilles. Mes citrouilles donc. Trouille numéro 1. Bah oui, première trouille. Ne pas trouver au marché la courgette locale de pleine terre, bio, poussée en sol vivant et issue du commerce équitable. Trouille numéro 2. Ne pas trouver au marché de courgette juste bio. Trouille numéro 3, ne pas trouver au marché de courgettes du tout. Trouille numéro 4, ne pas trouver de légumes au marché. Tiens, il y a des légumes, bon. Trouille numéro 5, ne pas trouver le marché. Parce que le marché, ben, il n'y en a plus. Et ma trouille ultime, ma sixième trouille, c'est quoi déjà une courgette? Bon, je sais, vous allez dire que j'en rajoute, que j'ai rallié le camp des marchands de pétoches. Mais ces citrouilles, eh bien, nous tous en pâtissons. Oh. Alors, ou courge farcie de bonnes intentions. Eh bien, je vais dans la même direction que mes amis et complices. En gros, je vais là où mes potes iront. Bon, trêve de vanne potagère. Qui est la bonne fée qui saura transformer mes citrouilles en carrosses? En carrosse capable de nous amener au bal, pas masqué, d'un avenir souhaitable. Eh ben moi, je la connais, c'est la fée agroécologie, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle seule détient le pouvoir de métamorphoser notre agriculture d'aujourd'hui, guimbarde fumante, en un attelage magnifique et formidablement efficace. Les chevaux de tête de cet attelage sont l'agroforesterie et les couverts végétaux permanents. Ce sont eux qui ouvre la voie des sols vivants, fertiles, très productifs, des sols enfin sevrés de leur dépendance aux énergies fossiles, à la chimie et libérés du labour profond. Et voyez comme il brille le carrosse, de l'eau de qualité en quantité, du carbone capturé et stocké, une biodiversité foisonnante, véritable moteur de la fertilité. Et ça continue, voilà que défilent des produits agricoles, de haute nutrition pour tout le monde, suivi de bêtes en pleine forme, de paysages magnifiques et de territoires enfin souverains sur leur alimentation. Ah, ça fait du bien de rêver. Mais bon, il se pourrait bien que tout ça ne soit pas un conte. Peut-être qu'il a eu lieu ce coup de baguette magique. Peut-être sommes-nous déjà en route. Si c'est le cas, on n'est pas encore au galop, hein, ça c'est sûr. Mais ça vient, ça s'accélère. Faisons confiance aux paysans, ce sont eux les nobles cochers du carrosse, le carrosse de notre salut. Alors pour les lendemains qui chantent et qui dansent, invoquons tous ensemble la fée agro-écologie et que jamais, jamais le charme ne se rompe.
Très bien, merci Arnaud. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour que le charme ne se rompe pas ?
Eh bien, par exemple, on peut aller dans le Gers cet été, entre le 1er et le 5 août. Vous savez qu'il y a à Marciac un festival de jazz.
Vous l'évoquiez la semaine dernière.
Jazz Marciac, voilà, je l'évoquais pour en parler de Denis Mélier. Et dans ce festival de jazz, donc Jazz in Marciac, qui s'appelle Jim, il y a un festival off qui s'appelle PIM, Paysage in Marciac. Et je serais ravi de vous y retrouver, notamment le 5 août, on va parler justement de tous ces sujets-là. On va parler de notre avenir commun et de la façon de prendre ensemble tous ces sujets, de retourner notre agriculture dans le bon sens.
Merci voilà. Beaucoup Arnaud Daguin. Dans un instant, je vous le promettais, vous saurez tout sur la vie botanique potagère de la courgette. D'autres recettes très très alléchantes et très astucieuses, entièrement végétales, de Zora Levaché, fondatrice de Sonate. Et puis les vins de Antoine Gerbel qui nous viennent d'Amboise, c'est bien ça, Val-de-Loire.
Tout à fait.
Ça coule déjà dans nos verres.
Mes souvenirs sont flous et filent sans fin au loin de moi. Je tends la main, je les retiens. Et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre.
La paix, un titre bien estival de Julien Barbagallo. C'est le batteur d'un groupe français-australien, Tame Impala. Ça vous dit quelque chose, cher Antoine Gerbel ?
J'adore, c'est le groupe préféré de ma fille.
Ah bah, ouais. Et puis c'est très 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 dansant pendant l'été. La courgette passe sur le grill en ce dimanche. Nous sommes en direct avec notre spécialiste des plantes potagères, Xavier Mathias, et notre restauratrice végétarienne, fondatrice de Sonate, Zora Levachet. D'ailleurs, une adresse, deux adresses et de trois, c'est pour très bientôt. Hein.
Une bien, ouais, voilà, bientôt une troisième adresse, oui. Dans le deuxième arrondissement. Voilà, donc succès.
Succès confirmé.
Confirmé.
Évidemment. Il ouais, y a la queue plaît, souvent chez Sonate et on peut y manger pour une dizaine d'euros des choses délicieuses pour le palais et pour le corps. Les courgettes sont des courges, en voilà un scoop, Xavier Mathias.
Bah oui, mais on l'oublie un peu trop, ce qui fait que, comme d'habitude, on réduit notre spectre. Donc, courgette, pour nous, c'est que Cucurbita pepo, voilà, du groupe, voilà, d'un groupe précis, qui s'appelle les zucchini, qui nous vient d'Italie. Merci les Italiens encore pour les légumes, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même eux, à chaque fois, qui nous refilent des trucs. Néanmoins, on peut manger en courgette plein de courges au stade immature. Donc, en Chine, par exemple, je vous ai apporté une loufa, la courge éponge. On la mange au stade courgette.
Non, mais montrez-nous ça. Ça voilà. Fait à peu près une trentaine de centimètres.
Ouais.
On dirait une éponge de mer. Enfin,
une éponge naturelle quand elle est mûre. Mm-hmm. Et on peut tout à fait la manger avant maturité. L'autre, celle qui était consommée avant les grands voyages d'explorateurs, c'était les lagenaria, ce qu'on appelle maintenant les gourdes. Donc ça.
Et qui sont bien de chez nous pour le coup. Alors, qui ne viennent pas d'Amérique du Sud.
Voilà, c'est. Pline l'Ancien, par exemple, donne une dizaine de recettes hein, de gourdes. Elles étaient moyennement appréciées. Moi, je trouve ça très bon quand c'est récolté immature. Et au Maroc, les slaouis, les fameux slaouis, ce sont ces gourdes récoltées immatures. Pour être honnête, je regrette qu'ils fassent... Alors, désolé pour le côté paradoxal de ce que je vais dire, mais si on avait des températures plus élevées, plus hautes, plus longtemps, on pourrait les cultiver vraiment avec beaucoup plus de succès. Honnêtement, je trouve ça plus intéressant que les courgettes. La texture est plus intéressante et je comprends que les Marocains cherchent des slaouis quand ils viennent en France.
Slaouis, cousine de notre courgette. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette gourde que vous tenez? Elle n'est pas vraiment juvénile, là, pour le coup.
Non, là, elle est...
Elle fait bien 40 cm.
Voilà, elle peut faire jusqu'à 2 mètres. Là, Elle est à maturité, donc le péricarpe, l'enveloppe du fruit a lignifié, c'est devenu dur comme du bois. Donc là, effectivement, elle est totalement inconsommable, elle est creuse en plus, mais il faut les récolter immatures, exactement comme nos courgettes, quand elles font 30-40 cm de long. Là, je les trouve vraiment très bien à ce moment-là. Donc voilà, courgette, c'est pas uniquement cucurbita, pepo, comme on a l'habitude. Mais à noter, la longue de Nice aussi. On connaît la ronde de Nice, mais il y a la longue de Nice, il y a les courges à cornes qui sont très bonnes en courgette. Mm-hmm. Et les pâtissons, sauf qu'un pâtisson mûr, c'est quand même pas terrible. Non. Alors que jeune, c'est super bon.
Zora Levaché.
Ouais, alors pour revenir à la courgette éponge, ma grand-mère en faisait pousser dans son jardin. On les faisait sécher et puis on se lave avec, voilà. Tout simplement. Et je continue à le faire. Non. J'ai l'habitude. Ouais.
Vous vous lavez avec des courgettes.
J'en ramène d'Algérie, du coup.
Mais la cougourde sert de récipient aussi, hein, de fait. C'est, voilà, bon.
Bien sûr.
On n'est pas obligé de que les manger.
C'est-à-dire que manger une courgette. E-T-E, diminutif de courge, c'est commettre un infanticide.
Ah bah oui, mais on commet beaucoup d'infanticides au potager.
Les petits pois, on en a parlé il y a quelques semaines.
Ouais, et parfois, on va même plus tôt que ça quand on mange la fleur. Hein, donc là, on a encore... Et en plus, ça, c'est un mélange entre l'infanticide et le parricide, puisque ce sont les fleurs mâles des courgettes qu'on va manger, pour pas se priver d'un fruit, en fait. Donc, quand on cueille les fleurs, on prend les mâles. C'est très pratique, parce qu'on les voit bien le matin quand on passe de bonne heure, en plus. Donc là, effectivement, c'est cette habitude qu'on a prise de manger très immature, en fait.
Vous allez apprendre avec étonnement, chers auditeurs, qu'en France, on consomme depuis une époque très très récente de la courgette. Et comme bien souvent, quand il s'agit de légumes, on est encore obligé de se tourner vers l'Italie. Pays décidément immense dans la sélection variétale, on pourrait dire plaque tournante incontournable en Europe pour la sélection des variétés. C'est à l'Italie qu'on doit la courgette ou tout le travail sur les variétés qu'il y a eu.
Voilà la sélection des zucchini en fait. Et zucchini, c'est un mot qu'on va retrouver chez les anglo-saxons.
Diminutif de zucca aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Petite courge en fait. Et ils sélectionnent, donc on appelle ça nous un cultigroupe, c'est-à-dire un ensemble de variétés assez proches, qui est tout à fait particulier parce que les courges, elles sont coureuses. Donc elles font 2,50 m, 3 m, 4 m carrés d'occupation de sol. Et là, ils ont un cultigroupe où elles ont un port irriguée, donc on arrive à les tenir à 70 cm seulement. Et elles sont incroyablement productives. Dès qu'on cueille un fruit,
hop, elle refait une fleur femelle et tac, ça repart, ça repart. Si vous arrêtez de cueillir, par contre, il y aura pas de jeunes fruits. Donc quand on a une responsabilité entre guillemets quand on a planté des courgettes, c'est de cueillir. Après, si on cueille pas et qu'elle grossit, très bonne nouvelle, elle va se garder comme une courge. On n'est pas obligé, là encore, de pasteuriser ou de congeler. En fait, elle se garde, la peau lignifie et elle est très bonne.
Arnaud Daguin, question d'auditeur.
Mon cher Xavier, vous venez presque de répondre à Stéphane qui nous demande quoi faire avec une énorme courgette du jardin de sa belle-mère qui vient de recevoir. Et il nous demande s'il y a des recettes de conserve de courgettes. Et je vous ai entendu dire qu'il faut la garder.
Ouais, voilà, comme une courge,
voilà.
Tout simplement.
Mais économisant étant, l'énergie.
Ceci étant, est-ce que c'est conservable en bocal une courgette?
Alors moi je la fais en confiture.
Ah.
Donc, pour tous ceux qui ont énormément de courgettes chez eux et qui savent pas quoi en faire, on peut très bien la faire en confiture et c'est délicieux.
Vous en expliquez les étapes?
Ouais. Alors la confiture de courgette. Donc moi j'ai choisi de la courgette jaune pour la couleur.
Ah, vous l'avez là en plus?
Oui.
Merveilleux. Arnaud Daguin, goûtez.
Du coup, avec du sucre, comme une confiture classique, donc pour un kilo de courgettes, 500 grammes de sucre. J'ai rajouté de l'eau de vie de Mirabelle pour donner un petit peu de goût. Et voilà.
Très bon.
Et le tour est joué. Très simple à faire aussi.
C'est étonnant.
Oh là, j'ai hâte de goûter, oui.
Ah non, c'est merveilleux. Non, non, bravo, félicitations. On parlait du rapport entre la courgette et l'érotisme, oui, car on ne soupçonnait pas à quel point il pouvait être tendancieux ou érotique de consommer une courgette.
Oui, les courges en général. De toute façon, là, il faut voir une similitude de forme. Et puis le fait que les fleurs soient très faciles à distinguer. Les fleurs mâles sont... Alors là, je suis désolé pour l'anthropomorphisme, mais les fleurs mâles sont au bout d'un long pédoncule. Et les fleurs femelles, il y a l'ovaire infère qui est juste sous la fleur. Donc si vous voulez distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles sur vos pieds de courgette, c'est très facile. Vous voyez la mini courgette au pied à la base de la fleur femelle.
Mais quand on consomme une courgette, on consomme un organe. Enfin, je ne veux pas insister là-dessus, pardon, mais c'est ce que vous m'expliquez.
Oui,
il va falloir aller jusqu'au bout. Hein.
Courage.
Mais non, mais on consomme un ovaire.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Comme quand on mange un œuf, on consomme un ovule. Donc, on a vraiment des drôles d'habitudes dans nos alimentaires. Oui, oui, non, c'est un ovaire. Donc, on a deux types d'ovaires. L'ovaire infère, qui est sous les fleurs, et l'ovaire super, qui est au-dessus des fleurs. Ça, c'est pour les tomates, par exemple.
C'est ça. Et quand on consomme la fleur de courgette, on consomme... alors, c'est plutôt la fleur mâle, pour éviter de gaspiller...
voilà, c'est ça.
Et, une courgette.
Ouais, c'est un petit peu curieux, d'ailleurs, de se dire que ce sont des organes mâles qu'on va manger, qu'on va porter à sa bouche et manger.
Ceci dit, quand il y a la femelle, enfin quand il y a une fleur sur une petite courgette comme celle que tu as là, c'est très bon aussi. Moi, je me souviens que chez mon père, on en faisait des palanquées comme ça, on les coupait, on les.
Alors là, c'est le légume ou plutôt le fruit et la fleur réunis en un seul légume. Là, c'est la courgette fleur.
C'est merveilleux.
Voilà, et qui est alors une super garantie de fraîcheur. Quand vous pouvez acheter des courgettes fleurs, elles sont très fraîches.
Courgette fleur.
On les fait sauter avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail et un petit peu de persil et c'est.
Et voilà. Et ben voilà.
Et Zora Levacher a également des stratégie culinaire pour cuisiner la fleur de courgette. Alors on sait que c'est devenu un classique de Méditerranée, notamment beaucoup en Italie, les fleurs de courgette qui sont soit farcies, soit tout simplement apprêtées avec une pâte à beignet. Vous en proposez une version sucrée?
Alors moi je la fais sucrée, donc je la fais en tempura.
Et vous les avez en plus apportées?
Ouais.
Même froide, ça marche ou pas?
Je les ai faites ce matin. Froide, c'est mieux de les consommer tout de suite après, mais donc là je fais tourner. Donc là je les fais en tempura avec des noisettes et du sucre glace. Voilà, pour montrer aussi qu'on peut la faire sucrée, parce que souvent elle se fait plutôt salée.
Ça
croustille, ça se marie très bien avec une glace, une glace à la vanille ou un sorbet.
Qu'est-ce qui croustille au citron?
La fleur de courgette, du coup, comme ça, en tempura.
Oui, mais froide, normalement, ça devrait être tout moumou, non?
Ouais, mais là, il ne faut pas les couvrir, justement. si on les couvre, elles vont s'humidifier.
Alors moi j'aime les courgettes, mais là encore plus.
ça marche très bien.
Des bunes de courgettes.
Oui, des bunes. C'est exactement ça.
Non mais c'est franchement c'est délicieux. Vous nous redites en un mot de quoi est composée la pâte à beignet?
Alors la pâte, du coup, soit on met de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette.
Il apporte beaucoup de gourmandise, ce côté praliné.
Alors un petit peu de maïzena, un petit peu de sucre, et puis comme ça c'est sans gluten en plus. On fait tremper la fleur de courgette dans la pâte, on la fait frire, et puis on la sort et on saupoudre un petit peu de sucre glace.
Il n'y a pas une goutte de bière?
Non. Non, par contre, j'ai mis de l'eau glacée. On peut faire avec de l'eau glacée.
De bière,
glacée et gazeuse.
C'est tout à fait étonnant. Il fait chaud, il fait soif. Est-ce que ça vous dit de glouglouter un coup?
Bah tiens,
avec plaisir.
On va déguster. Sur France Inter.
Cher Antoine Gerbel, on ne s'éloigne pas trop de la région d'origine de Xavier Mathias. Vous êtes donc, rappelons-le, hein, Xavier, à Chédigny. Et vous proposez de nous faire découvrir les vins d'une appellation toute proche, Antoine Gerbel.
Toute proche, 30 minutes, hein, au nord de Chédigny. On salue Chenonceau en passant. Et on arrive à Amboise. Alors Amboise, tout le monde connaît ce magnifique château qui a une triste histoire. Vous savez que Charles VIII est né dans le château d'Amboise. Il en est mort aussi, le pauvre, en se cognant. On a tous appris ça à l'école, en se cognant dans une petite porte. Pourtant, il n'était pas grand, le garçon, mais il a perdu connaissance.
La porte était solide.
Voilà, le pauvre Charles VIII est mort sur le parvis du château d'Amboise. Alors pourquoi nous étions au château d'Amboise avec mon équipe de Tellement Soif, où en ce moment on court partout pour aller chercher des bons vins de soif.
Rappelez-nous, Tellement Soif, c'est votre web télé. Hein.
Petite web TV, oui, qui grandit. Et on
qui propose plein de jolis sujets sur les vins partout en France et dans le monde.
Et on va à la rencontre des vignerons, puis aussi des activités un peu plus culturelles. Et il y avait un colloque à Amboise autour du cépage Caux. Alors, on a déjà parlé du cépage Caux, je me souviens.
Vous pouvez nous les plaire?
De l'ami C-O, petite accent circonflexe, T.
Parfois on dit Côte ou non, c'est Caux, hein?
C'est Caux. Non, non, on est dans le Nord, on prononce pas la dernière lettre. Et le Caux a cette particularité d'avoir un cousin très éloigné et en même temps très proche qu'ils appellent le Malbec.
Eh oui.
À Cahors. Et donc, ce colloque réunissait des vignerons de Cahors, les Cadurciens, et des vignerons d'Amboise. Alors, Amboise, c'est une toute petite appellation. C'est une petite enclave au milieu de la grande appellation Touraine. On connaît tous les Touraines Sauvignon. Maintenant, tous les Touraines sont souvent vendus avec des noms de cépages, Gamay. Et le Caux, c'est vraiment le cépage typique d'Amboise. Il y en a une petite centaine d'hectares et ils se sentent un peu seul en Touraine, parce qu'autour d'eux, il y a beaucoup de Sauvignon, il y a du Cabernet, il y a du Gamay, et ils ont décidé d'aller chercher leurs copains de Cahors pour parler ensemble de ce cépage. Alors ce cépage a une belle histoire, il est implanté dès le XVIe siècle à peu près partout. Il y a un historien qui était là, le professeur Samuel Le Turc, qui racontait qu'il était utilisé à la fois pour son pouvoir colorant, parce que c'est un cépage qui colore énormément. Il nous raconte qu'à Paris, on en voulait beaucoup, notamment pour couper, puisque les textes disent un tonneau de Caux faisait 5 tonneaux d'autres vins. Vous imaginez pourquoi. Mais tout ça pour faire des vins populaires, c'était pas des vins bourgeois ou d'aristocrates, c'était vraiment des vins populaires. Et puis il y a le phylloxéra qui est arrivé. Et le phylloxéra a mis du temps à arriver dans la région d'Amboise. C'est une des dernières régions qui est touchée par le phylloxéra. Je vous rappelle, le phylloxéra, ça commence à peu près au début du 19e siècle, et ça se termine à la fin. Et la région d'Amboise produit beaucoup de vin à cette époque-là. Et puis le phylloxéra arrive et le Caux disparaît quasiment. On plante du Gamay, on plante surtout des vignes hybrides, pas très intéressantes. Et quand même, au bout des jardins, au bout des vignes, les anciens gardent toujours un plan de plan, un rang de rang de Caux. Et ce Caux, il fait vraiment partie du patrimoine de l'histoire de la région d'Amboise. Ils en sont fiers, ils se sont battus, et ils ont demandé à l'ENAO une appellation pure rouge 100% Caux. Donc c'est validé, Amboise aura le seul vin de France 100% Caux. Quand vous achèterez un Touraine Amboise, vous saurez que c'est du Caux. Alors vous l'avez
dans notre verre. Ouais.
Voilà, ce Caux magnifique, alors j'en ai dégusté.
Arnaud Daguin n'est pas servi, il fait la tête.
Tiens, mon cher Arnaud. Il y a une petite production, hein. Alors il y a, on va dire, une vingtaine de producteurs. C'est sympa parce que c'est pas très cher. On est autour de 7, 8, 9, 10 euros. Et puis il y a quelques stars, qui se dégagent, notamment Damien et Coralie de Leschenaux, que j'aime énormément, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui sont des vignerons emblématiques de la région d'Amboise. Et je vous ai amené aussi autre chose, c'est qu'il y a les voisins, parce que les appellations, vous savez, ça s'arrête juste pouf, à la route. Ou au petit ruisseau, et de l'autre côté du ruisseau ou de la route, on n'a pas droit à l'appellation. Pourtant, généralement, c'est à peu près les mêmes terroirs. Ben là, c'est la même chose. C'est ce que je vous sers, c'est les rochers de la Violette de Xavier Weisskopf. Donc, c'est vraiment tout voisin juste à côté, puisque Montlouis est à côté. Il fait du Montlouis et il fait du Caux. Et c'est son vieille vigne que je trouve remarquable. C'est un 2017. Ça coûte un tout petit peu plus cher. Ça coûte 15 euros chez les cavistes. Mais en ce moment, encore une fois, on parle de canicule, de chaleur, de vin digeste et frais et dense.
C'est le cas.
On peut aussi boire autre chose que du rosé insipide et transparent.
Voilà. Ah, au contraire, le repas anti-rosé, c'est reparti.
Mais non, mais au contraire, il faut aller chercher des vins non pas alcoolisés, attention, parce que là, on est degré d'alcool relativement sage, mais il faut chercher de la matière, de l'acidité, de la texture.
Il y a une jolie tension, là, c'est ça qui est, désaltérant.
Et c'est exactement. Et ça passe très bien aussi sur les poissons, parce qu'on souvent nous pose la question, mais moi, je suis pas très carné. Qu'est-ce que je peux servir comme vin rouge? Parce que j'aime aussi le vin rouge sur le poisson. Le co a cette faculté. Voilà. Et puis, bien évidemment, on était dans la Loire, une petite partie de l'appellation toujours en bois. Donc, on est à l'extrême est de l'appellation Touraine. Encore une fois, beaucoup de Sauvignon autour. Et ils résistent avec le Chenin. Et le Chenin, on adore le Chenin. On va déguster. Et le Chenin, en ce moment, a vraiment le vent en poupe. Je suis ravi pour ce cépage parce que ce week-end, il y a une polée, aujourd'hui même, une polée des vins d'Anjou qui a lieu, présidée par Pascaline Le Pelletier, qu'on connaît bien, la sommelière aujourd'hui qui monte et qui est fan de Chenin. Lundi, mardi de la semaine qui arrive, il y a un colloque autour de Chenin, toujours à Angers. Alors je vous ai amené deux Chenin, un clin d'œil. Alors vraiment, ça c'est pour...
extraordinaire, ça c'est alors, dédicace, voilà. Dédicace Xavier Mathias.
Alors Xavier, qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette?
Ah ouais, le Chenin de jardin, ça c'est excellent, mais j'aime beaucoup les jeux de mots un peu
balouif. Bienvenue dans Vin Dégusté.
Voilà, alors Arnaud nous a dit que si maintenant les vignerons faisaient des blagues de coiffeurs, on était mal partis. C'est un clin d'œil.
Alors voilà, nos amis coiffeurs, tranquille.
C'est un vin simple, très parfait en ce moment à boire par les grandes chaleurs. C'est fait par Jérémy Mourat, qui est un vigneron en Vendée. Ça coûte 7 €. Voilà, c'est le petit blanc d'apéro sympathique. Et je vous ai mis dans votre verre, avec un petit 1 sur le gobelet, beaucoup plus intéressant, c'est le fameux Damien de Leschenault, son Bel Air, donc son Touraine Amboise pur Chenin, en biodynamie, bio, c'est savoureux, c'est là aussi on va chercher dans le Chenin, non pas cette capacité à faire du sucre, parce que le Chenin peut être un peu lourd, il y a du sucre résiduel, on va dire que ça c'est la caricature de cépage, mais aller chercher cette minéralité très très loin. Il est sur des silex, dans ce coin-là, donc ça n'a rien à voir avec l'Anjou, on est plutôt sur des terres noires, ou même des calcaires si on est sur Saumur, et donc on a de la chair, on a de la générosité, voilà.
C'est ça qui est assez génial avec le Chenin, c'est que ça peut proposer une aromatique vraiment flatteuse et riche, et en même temps une certaine tension, si évidemment...
C'est pour ça qu'on l'aime.
Défendons le Chenin. Donc voilà, tout est dit. Puis large soif pour cet été.
Eh bien, absolument, Antoine Gerbel. Merci beaucoup pour cette découverte d'Amboise. Nous sommes pas très loin de chez Digny, on l'a dit, votre fief. Profitons-en pour citer, c'est l'été, une activité que vous proposez pendant toute la saison estivale. Ce sont des apéros au potager, Xavier Mathias.
Eh bien, oui, on reste dans les bons vins et dans la pratique potagère. Donc voilà, pour ceux qui sont dans la région, voilà, on propose une petite formation, voilà, assez informelle, assez simple, entre nous, avec un apéro partagé. Chacun amène ce dont il est fier, soit à grignoter, soit à boire. Et puis voilà, on papote potager pendant toute la soirée.
Donc c'est quoi, c'est du troc? Il n'y a pas de...
Non, moi je...
Il n'y a pas d'argent en question?
Ouais, voilà, si on peut sortir un petit peu de la relation monétarisée impermanente, c'est plutôt bien.
Vous allez avoir pas mal de contacts, hein, je tiens à vous le dire.
J'espère.
Pour cet été. Non, mais c'est fabuleux. Profitez des lumières, évidemment, de Xavier Mathias. C'est un vrai bonheur. Tenez, une question de Monique Valère de Nice qui nous pose cette question. Je vois souvent sur les étals des marchés niçois des courgettes au nom rigolo, courgettes violon, courgettes trompettes. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est des noms vernaculaires un peu fantaisistes? Est-ce que ça correspond à des variétés précises?
Alors, oui, c'est des noms, ça correspond à des variétés un petit peu, oui, effectivement. On a des courgiolines, etc. C'est un petit peu fantaisiste, un petit peu business, hein, je pense quand même. Voilà, après qu'on fasse un petit peu de business avec des courges et des courgettes, je trouve ça plutôt très bien.
Vaut mieux en faire avec ça qu'avec de la drogue. Hein.
Oui, non, mais c'est ça. Et après, il y a eu un vrai travail de sélection et des choses qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment belles, qui sont sorties, notamment sur les courgettes de couleur. Et là, on a goûté la confiture avec une courgette jaune. C'est vrai que ça réjouit l'œil, hein, quand même. Courgette jaune, moi, je la trouve pas meilleure qu'une autre. Mais dans une ratatouille, c'est sublimement beau quand on n'épluche pas.
Elle a une chair, en fait, qui va être plus structurée, plus dense. Et donc, d'où le petit caviar là, que j'ai fait avec de la courgette
jaune. Eh bien, transition toute faite. Caviar de courgette jaune, c'est possible. Il n'y a pas que l'aubergine qui se prête à cette espèce de compoté mixé. Caviar de courgette jaune, basilic et noisette. Ouais. Vous nous en expliquez le principe,
très,
Zora.
Très, très simple à faire. On met les courgettes dans le four. On les laisse une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ensuite, on les retire. On enlève la chair de la courgette, donc qui va être une chair très dense. On la laisse dans une passoire pour enlever toute l'eau. On peut écraser un petit peu avec la fourchette. Et ensuite, on l'écrase sur une assiette. On rajoute un petit mélange de basilic, ail et huile d'olive extra vierge. Un petit peu de noisette torréfiée et c'est tout.
C'est diablement bon.
C'est délicieux, ouais.
Qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment délicieux avec cette petite note de pistou. Hein, ça, ouais. C'est le basilic et l'huile d'olive qui rappelle évidemment la Provence, voire la Ligurie voisine qui a le fameux pesto dans lequel on ajoute évidemment des pignons. Il y a des questions d'auditeurs.
Ouais, ce ne sont pas des questions. Je voudrais remercier Sabine, Bernard, Sarah, Pamela et les autres parce qu'ils nous inondent de recettes. Peut-être qu'on va les mettre sur le site. C'est absolument formidable. On sent bien que la courgette est un patrimoine partagé. Voilà, tout le monde s'en en part, avec plus ou moins de bonheur sûrement, mais il y a des choses qui ont l'air intéressantes au travers de tout ça. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, il y en a énormément.
Il y en a énormément, cette émission a beaucoup de succès. Il y a quelqu'un qui nous pose cette question tout à fait maligne. Si la courgette a un passé si récent que ça en France, ça voulait dire que cette ratatouille vieille spécialité du XVIIe siècle ne comportait pas de courgettes à l'origine. Certainement, c'était une compotée de légumes avec de l'aubergine, peut-être bien du poivron, de la tomate, mais en aucun cas de la courgette, alors que c'est aujourd'hui un des légumes constitutifs de la ratatouille.
Alors c'est très compliqué de savoir, en fait, parce qu'on mettait ce qu'on avait. En fait.
Soyons
donc,
prudents.
Est-ce que si on avait beaucoup de fruits de courge immatures, est-ce qu'on n'en mettait pas quelques-unes? En fait, c'est pour ça qu'on a peu de traces de la courgette, puisque c'était vraiment une récolte. Alors, si, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de culture spécifique. On n'avait pas de variété, comme on fait maintenant, où on a un rang de courgettes et on n'a que des courgettes sur le rang. Mais par contre, dans les cultures de courges, avoir hâte et avant l'automne, avant les premières gelées, récolter des jeunes fruits matures pour gonfler un petit peu un plat, oui, je pense que ça se faisait vraiment, par contre.
Très bien. Dernière création végétale qui a atterri sous nos micros, toujours signée Zora Levaché, fondatrice de Sonat. C'est la courgette farcie aux noix, citron vert et pétales d'ail frit.
Voilà, du coup, une recette de courgette farcie végétale.
Là, vous utilisez la jaune. Hein.
Et la jaune, alors j'ai fait un mix, j'ai pris de la rayée, de la jaune, de la verte, mais pas de la courgette de Nice, parce que du coup, je voulais avoir plus de texture, plus de courgette en fait que de farce. Et donc tout ça avec un petit peu d'épices, de la cardamome, un petit peu de cannelle, un petit peu de cumin. Voilà, tout ça au four, un petit filet de citron vert et de l'ail frit, et puis voilà.
Et c'est incroyable de voir qu'on peut faire une farce extrêmement consistante, etc.
Qui ressemble presque à de la viande.
Sans l'appui de la viande, c'est ça, hein. Avec une texture, j'allais le dire, effectivement très charnue. Ouais.
Au-delà de la farce, bravo pour la cuisson de la courgette. Mmh. Parce que.
Un garçon croquant.
C'est pas un truc tout mou, la courgette. Ouais. Ça peut être vraiment bon, vraiment croquant.
Et parfumé. Ouais,
vraiment
très bien. Vous faites allusion au mauvais petit farci de Nice, peut-être.
Qui peuvent être bons aussi.
Quand ils sont bien faits.
C'est terrible.
C'est bon quand on sent la viande et la farce restent debout.
Voilà.
Ah oui. À poil.
Le problème de cette recette, c'est déprimant au possible. Vous avez le petit farci raté où t'as la farce qui est debout. Dans les légumes, qui est
complètement affalé. On est bien d'accord. C'est un truc techniquement assez compliqué. Merci beaucoup, les amis. Xavier Mathias, un immense merci d'être venu avec toutes les courgettes de votre potager. On va vous retrouver dans quelques dimanches, puisque vous êtes désormais un chroniqueur habitué dont on va déguster. On va vous retrouver le dimanche 22 juillet pour une émission sur la tomate. Et le 28 juillet pour une émission. Attention les amis, c'est clivant comme fruit ou comme légumes. C'est le melons et pastèques. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le melon. Il y a même des chroniqueurs dont on va déguster qui ont refusé de participer à cette émission. On va défendre le melon, ce fruit d'été. Merci Zora Levaché. Deux adresses, vous nous en rappelez les adresses justement.
Alors 5 rue Bourdaloue dans le 9e arrondissement. 9 rue de la Borde dans le 8e près de Saint-Lazare.
Votre première adresse dans le 9e est ouverte tout l'été.
Voilà.
Et votre deuxième adresse à Saint-Lazare.
Et à Saint-Lazare, on ferme juste 3 semaines le mois d'août.
C'est une super nouvelle. La semaine prochaine, pour notre deuxième dimanche de l'été, nous serons, figurez-vous, à Bruxelles, à l'occasion du départ du Tour de France, pour une émission en direct et en public. Oui, il faut venir devant le Carpodium de France Inter, Parc de Bruxelles. Et nos amis belges, d'ailleurs, Charline et Alex Vizorek, nous précéderont la veille pour une émission spéciale par Jupitour. La veille à 11h, Elvira Masson et Dominique Cutin feront partie du voyage. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,